place like that.
L'émission pour déranger les 2e et 4e mercredis du mois de 18h30 à 20h sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle émission de Dégenré. Ce soir, notre thème sera femmes et VIH-Sida. C'est la deuxième fois en fait qu'on a ce thème. On avait déjà fait une première émission à ce sujet en janvier, mais la première émission, on avait plus axé sur la réduction des risques, la prévention, danger de transmission spécifique pour les femmes et aussi le manque de politique de prévention qui axait sur les femmes et tout. Et aujourd'hui, en fait, on voudrait plus parler en fait des situations auxquelles sont confrontées les femmes séropositives et ce que ça représente pour les femmes de vivre avec le VIH. J'ai oublié de nous présenter. On est là. Alors aujourd'hui, Amélia, Hélène, Inga et Hélène à la technique.
Bonsoir.
Bonsoir. Et en fait, pour cette émission, nous avons aussi deux invités. C'est Audrey et Annabelle de l'association Aide.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors bienvenue. Et peut-être vous pouvez présenter un peu l'association où vous travaillez.
Oui, effectivement. Alors Aide existe depuis 20 ans. On est installé sur Grenoble depuis 86. Et c'est pour ceux qui auraient oublié, c'est l'association de lutte contre le sida. Qui regroupe les personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. Sur Grenoble, à Aide, on a des accueils et on a aussi un bus pour le programme d'échange de seringues. Et on fait aussi de la prévention dans le milieu gay. Et entre autres, on a l'accueil femmes, dont Annabelle va vous parler.
Oui, donc on a un accueil spécifique pour les femmes depuis... une grosse année maintenant, donc au-delà des différents accueils qu'on peut avoir, que ce soit au local ou à l'extérieur, par exemple à l'hôpital, au CHU, il s'est ouvert suite notamment à la présence de plus importante de femmes dans nos accueils et aussi suite à une demande qui avait émergé de leur part pour avoir un espace de parole privilégié pour pouvoir aborder plus facilement des sujets plus intimes qu'elle ne pouvait pas forcément faire dans le cadre de l'accueil général avec les hommes qui étaient présents à côté. Donc depuis un an, cet accueil fonctionne autour de petits déjeuners qui sont pris en commun le matin. Et bon, là, cette année, on initie aussi tous les 15 jours des repas. Donc ça crée aussi une dynamique de solidarité entre les femmes qui s'épaulent aussi l'une l'autre et qui se retrouvent souvent avec des parcours de vie communs.
Et donc il y a, je sais pas, il y a beaucoup de femmes qui profitent, enfin qui viennent à cet accueil-là. Et est-ce que elles viennent régulièrement ou plutôt une fois
Alors il y a un groupe de, on va dire 5-6 femmes qui viennent très régulièrement. Après, celle qui, il y a au total 17 femmes qui gravitent autour de cet accueil spécifique ou à travers aussi un soutien téléphonique régulier ou un accompagnement dans les démarches. Donc oui, il y a un petit groupe, je dirais, solide, qui vient très, très régulièrement sur ces accueils ou au repas. Et il y a toujours de nouvelles femmes malheureusement qui sont atteintes, qui sont concernées, qui viennent rejoindre l'accueil ou qui bénéficient d'un soutien dans le cadre de nos actions.
Et peut-être on peut déjà dire du coup c'est les lundis matins.
Voilà, lundis c'est matin, tous les lundis matins de 9h à midi et tous les 15 jours, donc il y a un repas sur le midi qui est partagé. Chacun à son tour fait la cuisine pour les autres et ça se met en place régulièrement.
Et du coup, redonner aussi l'adresse.
Alors, on est situé au 8 rue Sergent Bobillot à Grenoble, donc pas loin du quartier Championnet.
D'accord. Et un peu pour commencer cette émission, donc sur le sujet des femmes par rapport au SIDA, on voulait un peu reparler aussi que en Europe et aux États-Unis, c'est finalement assez récent que l'on parle plus des femmes séropositives ou qu'on les prenne plus en compte au niveau des contaminations au VIH, alors que pourtant fait quand même déjà un certain temps qu'elles représentent la moitié, voire dans certains pays comme par exemple en Afrique, 60% des personnes séropositives ou vivant avec le SIDA. Et voilà, je ne sais pas si du coup au niveau d'aide, c'est un peu quelque chose que vous avez suivi, une sorte de féminisation de l'épidémie ou...
aide, voilà, on le voit concrètement par rapport aux personnes qui fréquentent nos accueils. Mm-hmm. Donc une part de plus en plus importante de femmes dans nos accueils depuis facilement 2 ans. Après, au niveau de la globalité des personnes atteintes, il reste une part quand même plus importante d'hommes, mais par contre sur les nouvelles personnes contaminées, c'est de plus en plus des femmes. La proportion tend quand même à ce qui, dans les données chiffrées, il y a davantage de femmes que d'hommes de nouvellement contaminés.
Mmh. Et sinon, du coup, on voulait reparler un peu des facteurs de vulnérabilité par rapport aux femmes, enfin reparler un peu des facteurs physiologiques déjà au niveau de la transmission du VIH ou d'autres IST, mais là plus du VIH, mais auxquels viennent s'associer d'autres facteurs sociaux, économiques qui, on peut dire, aggravent les risques de contamination. Je ne sais pas si Audrey, tu pouvais nous dire.
Oui, effectivement, les femmes, par l'accumulation de tous ces facteurs, sont plus vulnérables que les hommes face au SIDA, et on peut classer ces facteurs en deux classes pour faire la répétition. Il y a les facteurs biologiques, donc par exemple le sperme est plus contaminant que les sécrétions vaginales, puis en plus il peut rester plusieurs heures après les rapports. On peut parler aussi des muqueuses féminines, vu que la surface des muqueuses féminines est plus importante que celle des hommes. Tout le vagin est concerné. Et entre autres, ces muqueuses sont fragilisées au moment des règles. Il y a aussi, après un accouchement, à la ménopause, donc à tous les stades de la vie de la femme, la présence des IST, comme tu disais, peut favoriser cette fragilité. Il y a aussi, bien sûr, les rapports non désirés, forcés, voire violents. Et au niveau des jeunes femmes qui sont aussi très touchées par l'immaturité du col de l'utérus et l'hymen lors des premiers rapports. Sinon, au niveau des facteurs socio-économiques, culturels et juridiques, il me semble quand même... le biologique, c'est quand même très important, mais les facteurs socio-économiques induisent aussi cette sorte de fragilité, notamment lors des rapports forcés ou... ou non désirées. Déjà, les femmes sont plus dépendantes économiquement, les violences, donc comme j'ai dit, la culture dans laquelle la femme évolue, le statut juridique, les normes sexuelles qui sont aussi en vigueur dans quelques cultures que ce soit, et la dépendance la précarité, pardon. Donc tout ça, ça a une influence directe sur la capacité des femmes à négocier des rapports sexuels protégés négocier, enfin, par rapport au sida, quoi, donc elles sont beaucoup plus fragiles.
Ouais, aussi le fait que bien souvent ça reste quand même aux femmes à prendre en charge la protection ou la contraception, ce qui est autre chose, mais que c'est souvent quand même à elles de devoir négocier ou essayer d'imposer le préservatif ou d'autres outils de réduction des risques, et que du coup cette négociation elle est plus ou moins possible. Je pense selon les femmes, du coup, selon ses conditions de vie, selon les rapports de force avec les hommes, etc.
Ouais, et donc, on a vu la liste des facteurs, elle est assez longue, et ces facteurs-là peuvent donc expliquer un petit peu le fait que dans les nouvelles contaminations, il y a plus de femmes et que les au niveau mondial le nombre de je crois que là c'est à 60% en fait mon micro alors c'est les femmes représentent 60% des personnes vivant avec le virus VIH mais en fait, d'un côté, il y a les facteurs physiologiques, comme on va voir plus loin dans l'émission aussi, qu'il n'y a pas une recherche très poussée sur, les corps des femmes en fait là-dedans, mais aussi les campagnes de prévention sont très générales et notamment en France, il y a une politique vraiment de rester dans l'idée d'une prévention générale qui fait que en fait différents groupes de population et notamment à un moment donné les femmes se sentent pas concernées par le danger de contamination. Tu voulais parler un peu par exemple des lesbiennes, mais il y a aussi les femmes hétérosexuelles par exemple. Il y a vachement encore l'image de les personnes, en gros il y a des groupes un peu plus en danger comme les homos, les toxicos il y a un peu des stéréotypes comme ça qui restent vachement.
Ouais, qui restent prégnants. Et aussi les campagnes qui sont faites sont pas obligatoirement très intéressantes. Enfin déjà il y a peu quand même de campagnes faites en direction des femmes, comme par exemple aussi il y a peu de diffusion du préservatif féminin qui serait pourtant un outil intéressant de protection pour les femmes. Et je vois par exemple dernièrement il y a eu une campagne à Lyon. Et dans cette campagne c'était marqué le gros titre, du coup on voyait des femmes en photo avec marqué 7 fois plus de risques chez les femmes. Et non pas pour les femmes, alors que le 7 fois plus de risque, c'est la transmission pour qu'elles soient contaminées. Mais comme c'était mis chez les femmes, ça faisait plutôt c'est les femmes qui sont un danger, plutôt que le danger c'est pour elles. Et par exemple, de la même façon aussi, on entend souvent parler des femmes plus au niveau de la transmission mère-enfant, comme si là on s'y intéressait plus parce que on les voit d'abord en tant que mère ou un danger pour l'enfant.
Mais c'est vrai qu'il y a une idée encore très commune. Qui va malheureusement toujours de pair avec le sida, c'est l'aspect la maladie honteuse qui concerne à part les transfusés puis les enfants qui ont été contaminés par leur mère, c'est des victimes et sinon les autres en fait quelque part ils l'ont bien cherché entre les homosexuels quelque part oui ce que tu dis là ça fait penser aussi les femmes quelque part ça revient à, c'est les femmes de mauvaise vie donc il y a ce côté c'est quelque part c'était de leur faute
Puis même rien qu'au niveau sans la stigmatisation il y a aussi des groupes de personnes qui sont considérées comme n'étant pas concernées par l'épidémie, comme tu citais les lesbiennes ou voilà, donc ces groupes de personnes-là, quoi.
Ouais, où il y a super peu d'infos qui est faite, ou alors aussi enfin, je veux dire, même par exemple pour les lesbiennes, elles sont vues, on en parle déjà peu des risques de transmission de femme à femme, et aussi qu'on en parle, c'est juste au niveau de ce risque-là, et on ne prend pas en compte que le fait d'être lesbienne, ça empêche pas d'avoir pris d'autres risques, d'avoir eu des relations hétérosexuelles plus ou moins voulues avant, d'avoir pu être aussi usagère de drogue, enfin d'avoir pris d'autres risques. Et du coup, ça fait aussi que les campagnes, vu qu'elles en parlent pas, et ben les personnes, elles se sentent pas concernées non plus.
Ouais, dans les groupes de personnes qui se sentent peu concernées, c'est souvent on pense que, ben voilà quoi, c'est surtout quelque chose qui concerne les jeunes ou et pas tellement par exemple les personnes âgées. Alors ça vient aussi de l'idée qu'on se fait souvent que les personnes âgées n'auraient plus de sexualité. Et ben dans cette émission en fait on va vous lire tout au long aussi des témoignages, et voilà, on va commencer justement avec un témoignage qui illustre que c'est vraiment des fausses idées sur la vie des personnes âgées.
J'allais avoir 60 ans et depuis la disparition de mon époux, je ne voyageais plus beaucoup. Raison pour laquelle ma petite famille décide de m'offrir une croisière de 3 semaines dans les Caraïbes. Quel beau cadeau et quel merveilleux souvenir, inoubliable. Surtout quand aujourd'hui, 5 ans plus tard, à la suite d'examens prescrits par mon médecin, j'apprends que je suis séropositive. Inoubliable, cette croisière au cours de laquelle j'avais eu une petite aventure avec un monsieur de mon âge. La terrible nouvelle acceptée, j'ai contacté cette personne. Elle ignorait totalement sa séropositivité. En 5 ans, combien d'autres femmes a-t-il contaminées ? Vous êtes toujours sur Dégenré, sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Donc ce soir, une émission sur les femmes et le VIH SIDA. Et on vient d'écouter un morceau de Mera Asher, qui est une chanteuse d'origine israélienne. Et c'est un morceau qui parle du SIDA et un peu des stéréotypes et stigmates véhiculés par rapport à cette maladie.
Ouais, et donc pour cette émission-là, on voulait un peu plus parler du vécu en fait des femmes séropositives et peut-être un peu commencer en fait par qu'est-ce que ça représente dans la vie quotidienne des femmes de vivre avec le VIH, de vivre avec le traitement. Vous travaillez, vous rencontrez les femmes séropositives en fait dans votre association Aide. Alors je sais pas, peut-être vous pouvez raconter un peu qu'est-ce que ça peut représenter en fait pour les femmes de vivre avec ce virus.
Mais disons que pour les femmes, il y a un tas de facteurs qui sont les mêmes que ceux que vivent les hommes, c'est-à-dire la difficulté de la prise des traitements, l'épée de Damoclès sur la tête en permanence, le fait, déjà, qui est très difficile à passer au début, c'est d'accepter, entre guillemets, sa maladie et de devoir vivre avec au quotidien. Après, tout ce qui concerne toute personne séropositive, pour les femmes plus particulièrement, va se jouer aussi la difficulté de vivre son rapport à la féminité, notamment aussi du fait des effets secondaires des médicaments qui vont amener pas systématiquement, mais qui peuvent amener des hypodystrophies, donc qui sont par exemple des répartitions anarchiques des graisses qui donnent vraiment une image corporelle vraiment pas belle du tout,
quoi. Qui transforme
complètement le corps, donc c'est tout ça qui s'ajoute à ce qui est de vivre déjà avec le virus au quotidien. Et puis c'est difficile pour beaucoup d'entre elles d'imaginer avoir de nouveau une vie sexuelle et amoureuse avec le virus, parce qu'il y a toujours cette question que n'importe quel séropositif retrouve, c'est à un moment donné s'il tisse une relation avec quelqu'un, de devoir annoncer sa séropositivité, le dire ou pas, enfin de toujours se protéger. Et pour la femme, ce qui va se rajouter, c'est cette difficulté qui est déjà à la base de pouvoir négocier le préservatif,
ou le féminin.
Oui, donc le préservatif féminin, oui, ou masculin.
Et donc en fait on a deux témoignages en fait pour parler un peu de la vie quotidienne où les femmes déjà elles assurent pas mal de tâches, souvent en fait par exemple un peu le double emploi si en plus à ça il s'ajoute la gestion en fait d'une maladie, ça commence à faire beaucoup.
Oui, ça fait aussi que la gestion de la maladie ou la prise des traitements, ça peut passer après le reste. Je pense surtout par exemple pour celles qui ont des enfants, enfin qui du coup ont un travail à gérer, plus une vie familiale, parce que déjà dans la société, c'est les femmes qui assurent ces deux charges, plus au niveau du travail et puis au niveau de la vie quotidienne. Et du coup, avec la maladie en plus, ça fait une autre charge. Et là, par exemple, je voulais vous lire un témoignage qui parle un peu de ça. Quand on est une femme et qu'on est touchée par le VIH, on entre dans un processus de précarisation auquel on ne peut échapper parce que la maladie est lourde, les traitements sont lourds, les charges aussi. On est mère de famille, on est dans la vie active, on est étudiante, mais la maladie nous fait perdre la moitié de nos possibilités. Et même si on était cadre, on doit gérer à la fois le traitement, les enfants, la maladie, la vie et le travail. On perd au moins la moitié de sa productivité. La précarité nous menace toutes et concerne toutes les femmes séropositives. Cela peut nous arriver à toutes. Et sinon, il y avait un deuxième témoignage qui parle plus aussi du fait que dans l'éducation des femmes, on nous apprend beaucoup à nous occuper des autres, de prendre soin des autres, et que parfois, du coup, prendre soin de soi-même, ça passe après prendre soin des autres.
Je voudrais souligner une autre chose par rapport à la problématique des femmes. C'est mon opinion personnelle, donc elle n'engage que moi. Mais je pense que les femmes sont formatées à devoir à tout prix assurer. Elles assurent avant tout pour leurs enfants, pour leur famille, etc. Et elles passent toujours en dernier. Je prends l'exemple caricatural de la grippe. Une femme qui a la grippe continue à faire à manger, à s'occuper des gamins, etc. Un homme qui a la grippe sait tout juste s'il ne faut pas appeler le SAMU, il ne bouge plus. C'est un exemple, mais je pense que ce n'est pas un hasard si les femmes disent « maintenant j'en peux plus, faites quelque chose ».
Par rapport à ça, on voulait aussi un peu parler plus des discriminations qui peuvent être vécues dans la société en général, et que par exemple des discriminations autres peuvent se rajouter, comme le fait d'être étrangère, d'être sans papier ou d'être dans une situation de précarité sociale. Ça peut faire que ça rend encore plus difficile le quotidien, en fait.
Oui, il y a comme le disait le premier témoignage, il y a cette précarité qui est très liée au sida d'une manière générale, où il y a un facteur où en fait la précarité amène au sida et le sida amène à la précarité. C'est-à-dire que même si avant d'être de se savoir malade ou d'avoir des vrais problèmes pour gérer la maladie, on a un quotidien, assez banal, basique, avec un travail, tout va bien, la famille assez entourante. On a peut-être, acheté une voiture, un crédit pour la maison, des choses comme ça. À un moment donné, quand l'état de santé se dégrade et qu'on ne peut plus assurer au niveau du travail comme avant, on voit beaucoup de personnes qui vivent une dégringolade dans leur vie. Donc ça va être pouvoir travailler à plein temps dans un premier temps, donc avoir une chute au niveau des revenus, donc qui reste quand même gérable, mais qui rend quand même la vie plus difficile. Après, c'est aussi annoncer à son entourage sa maladie, enfin déjà l'annoncer ou pas l'annoncer, mais de toute manière, qu'on le fasse ou pas, on a un rapport aux autres qui change, donc son entourage qui change, et beaucoup de personnes qui se retrouvent on dit souvent, avec 20 amis, à la fin, ils en ont peut-être plus que deux, voire plus du tout.
Oui, c'est toujours cette notion de peur du rejet qui prédomine, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de la famille ou des amis. C'est, si je le dis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont me rejeter? La peur de se retrouver seule. Puis finalement, vu que les rapports avec les autres changent, parce qu'on a cette angoisse qui prédomine, d'une certaine manière, la précarisation se fait aussi au niveau social, donc voilà.
Il y a un isolement qui peut être du fait des réactions extérieures quand la personne dit sa séropositivité, ou un isolement aussi qui peut se faire de la personne d'elle-même au départ, en fait, qui s'isole elle-même parce que de toute manière elle est en incapacité de parler de sa maladie et trop peur d'être entraînée vers l'isolement, donc elle se met en situation d'isolement elle-même dès le départ, en fait. Et ce qu'on voit souvent aussi, c'est vraiment des personnes qui, pour le coup, vont vraiment dans la précarité, puisque les crédits de la vie d'avant, quand tout allait bien, continuent de courir. Ils se retrouvent à toujours devoir payer et ne s'en sortent plus du tout financièrement, quoi.
Sans compter le coût de tous les soins médicaux et quelle est la couverture sociale derrière. Enfin,
oui, c'est ça, surtout avec actuellement, par exemple, la réforme de la Sécu, par exemple, le truc de devoir verser 1 euro pour chaque consultation. J'imagine que pour des personnes qui du fait de leur maladie ont clairement des consultations diverses, beaucoup plus nombreuses que la moyenne des gens, et ben ça rajoute un coût. Il y a aussi par exemple les attaques par rapport à l'aide médicale d'État. Enfin, je pense le harcèlement par rapport aux personnes sans papier ou les difficultés d'obtenir un titre de séjour ou un titre de séjour qui permet aussi de travailler et qui fait que ça rend encore plus les situations difficiles.
Il y a, actuellement, enfin, il y a deux sujets particulièrement enfin, délicats, c'est notamment par rapport aux... Donc voilà, en l'occurrence, c'est beaucoup de femmes qui sont d'origine étrangère et qui ont des difficultés à obtenir leur titre de séjour. Donc les procédures sont mises en place, mais c'est tellement long qu'elles se retrouvent à devoir attendre des délais qui dépassent parfois une année avant d'avoir enfin un titre de séjour qui leur ouvre des droits. Donc ça veut dire qu'en attendant, elles ont pour la plupart pas le droit de travailler, droit à aucun revenu minimum. Donc c'est vraiment très très dur à gérer et d'une manière générale aussi pour l'accès aux soins actuellement. Ben on est un peu inquiet par rapport à l'accès à la mutuelle, puisque c'était déjà une problématique qui existait avant. Sur les personnes qui avaient un emploi, qui avaient besoin d'une mutuelle, c'était difficile pour eux de trouver une mutuelle qui soit pas trop chère et qui prenne vraiment en charge tous les frais liés au suivi médical de la pathologie. Et donc dernièrement, bon, y a une mesure qui est sortie qui fait qu'il abaisse le niveau d'accès à la CMU complémentaire, donc les personnes qui ont maintenant une allocation d'adulte handicapé en fait vont dépasser ce seuil de revenu qui a été défini, donc ne vont plus avoir droit à cette CMU complémentaire. Donc ça va encore faire davantage de personnes qui vont être en difficulté pour payer leurs soins.
Moi je voulais lire un témoignage en fait qui parle justement des difficultés d'accès à l'aide médicale d'État dans ce cas-là. Et c'est extrait de Action, la lettre d'ACTAP de décembre dernier. La médecine au service de la préférence nationale. Joëlle est venue en France pour rendre visite à son fils. Elle a dû être hospitalisée d'urgence et a découvert lors de ses examens un cancer du col de l'utérus ainsi qu'une séropositivité au VIH. N'étant pas en France depuis plus de 3 mois, elle n'a pas pu bénéficier de l'aide médicale d'État. Le médecin du service de néphrologie a alors entrepris un véritable harcèlement moral à son encontre pour qu'elle quitte l'hôpital. Un jour, il la rendait responsable du déficit de la sécurité sociale. Un autre, il lui demandait de rentrer chez son fils pour le week-end. Et un autre encore, elle a vu sa chambre donnée à un autre malade alors qu'elle était au bloc opératoire et a ainsi dû passer la nuit sur un brancard. Pire, ce médecin a empêché qu'un traitement par laser de son cancer du col de l'utérus lui soit administré. Aujourd'hui, Joëlle a dû changer d'hôpital pour être prise en charge comme le requiert son état de santé. Enfin, c'est vraiment, en entendant ça, c'est hallucinant quoi, à quel point... Enfin, il y a d'un côté en fait, le fait de qu'elle puisse pas bénéficier de l'aide médicale d'État, mais de l'autre côté aussi le comportement de ce médecin qui est complètement hallucinant... les procédés d'harcèlement comme ça et d'un racisme aussi vachement et je me dis t'es à l'étranger, t'apprends que t'es séropositif, qu'en plus t'as un cancer du col de l'utérus, c'est déjà assez lourd, alors être exposé en fait à des furieux comme ça
puis je voudrais un peu témoigner de deux situations de femmes qu'on a vues arriver à peu près au même moment à Grenoble, qui donc toutes les deux d'origine étrangère, ont droit au titre de séjour qui existe vie privée et familiale, donc pour raison de santé. Donc dans la mesure, là, c'est une disposition très légale où la personne ne peut pas avoir accès au traitement dans son pays d'origine, elle a droit à ce titre de séjour. Donc ces deux personnes sont arrivées à peu près dans la même période au local de elle, une qui était séropositive mais qui n'avait pas encore besoin de traitement, avec une charge virale indétectable, niveau de santé elle est très bien, et l'autre avait dans un état de santé beaucoup plus dégradé entre guillemets, qui avait urgemment besoin de soins. Et au fil en fait des mois, On a vu, c'est quelque part par rapport à leur état, à toutes les deux à l'arrivée et enfin, je dirais dans la durée, celle qui était le plus malade à la base s'en est beaucoup plus rapidement tirée au niveau reprise de confiance, de morale et de capacité à se projeter, à s'investir sur des choses, parce qu'elle a pu, parce qu'elle était d'origine d'un pays d'Afrique pour lequel il n'y avait pas de difficultés particulières pour avoir ce type de séjour, donc avoir son autorisation en règle d'être sur le sol français, donc du coup accès sans problème aux soins, accès à un suivi, à une formation, elle a pu vraiment, bon ça a mis quand même un certain temps hein, malheureusement pour toute personne qui demande ce type de séjour, c'est très long, donc les gens se retrouvent avec au minimum une autorisation provisoire de séjour et la plupart du temps deux, donc sans autorisation de travailler, sans le droit de rien faire en attendant, mais bon, elle a quand même eu rapidement par rapport à l'autre qui venait d'Algérie, donc avec l'Algérie, comme il y a des conventions entre la France et l'Algérie, c'est beaucoup plus compliqué, ce qui fait que cette personne qui était, heureusement, n'a toujours pas besoin de traitement, mais qui à la base physiquement va mieux, s'est retrouvée au niveau du moral, par contre, de plus en plus mal et avec vraiment une envie d'en finir, parce que elle voyait pas d'espoir à l'horizon en fait, avec bon tout ce qui est aussi au-delà de du fait d'être seule dans un pays inconnu, mais c'est aussi le fait d'avoir souvent la famille qui est sur place. Ces femmes, elles ont toutes les femmes étrangères qui viennent à Aide ont des enfants qui sont restés au pays, donc avec cette difficulté d'être séparé de ses enfants, d'avoir fait à un moment donné la démarche de les quitter, de les laisser à la garde de leur famille ou d'amis pour espérer en fait améliorer leur situation elle-même pour dans l'espoir aussi de les faire venir ensuite quoi dans cette optique. Donc tout ça ça rentre beaucoup en compte aussi et quelque part les difficultés sociales prennent même le pas sur les difficultés d'ordre thérapeutique, d'accès au traitement, enfin c'est vraiment enfin des facteurs sur lesquels on essaye de se battre au maximum.
Déjà les lois elles sont restrictives et en plus selon les préfectures il y a aussi des préfectures qui respectent même pas des lois, enfin qui continuent à donner des autorisations provisoires de séjour où il n'y a pas de permis de travail, alors que la personne aurait le droit à un permis, enfin une carte de séjour temporaire avec un permis de travail. Et du coup, là, j'imagine, enfin les personnes, si elles ne sont pas vraiment soutenues par des associations avec des soutiens juridiques, elles ne l'obtiennent pas parce que les préfectures, selon avec qui, devant qui on se retrouve, en profitent et ne donnent pas le permis.
Oui, il faut être armé.
Parce ouais, c'est
que
clair,
si
c'est
on se présente seul au guichet, en plus maîtrisant pas bien la langue, en fait, comme au guichet, il n'y a jamais les papiers qu'il faut, on n'y comprend rien. Enfin, nous, sur Grenoble, on n'a pas de personne en charge des questions juridiques directement. Donc, quand on a vu ces situations arriver, on s'est penché un peu sur, sur les dispositions légales, sur qu'est-ce que c'était ces différents types de séjour. Mais c'est hyper complexe, enfin tout le monde y perd un peu son latin, donc quelqu'un qui débarque dans un pays pas connu en maîtrisant à peine la langue, autant dire que c'est mission impossible, d'autant plus que au guichet les gens défilent et vous voulez quoi, tel formulaire, puis on revient avec son formulaire, vous avez pas demandé le bon, ah oui mais il fallait deux photos, là c'est pas le bon, ou sur les domiciliations des personnes en fait, il vous faut une attestation d'hébergement, donc vous avez qu'une adresse, ça ne correspond pas, donc du coup c'est un jeu entre guillemets sans fin où il y a, de toute façon il n'y a jamais le papier qu'il faut au bon moment, pour peu qu'on arrive enfin à avoir un des papiers, c'est un autre qui manque, qui fait qu'il va falloir redemander le premier papier et puis que ça va reprendre 6 mois, donc c'est des situations comme ça qui tournent en rond et qui font traîner les choses. Et il y a aussi au niveau, par exemple, de l'accès aux comptes bancaires, des difficultés du même type pour les personnes étrangères qui n'ont pas un logement à leur nom propre, donc ils peuvent être hébergés dans des, comme nous on a des appartements relais, donc on a des personnes qui sont hébergées par l'association, enfin il y a d'autres, il y a plein de dispositifs d'hébergement qui existent comme ça, ou en fait quand on veut ouvrir un compte à la poste, l'attestation d'une association comme elle n'est pas recevable. Donc du coup pour certains on a dû faire carrément passer par la Banque de France pour faire une désignation d'office de compte pour que les personnes puissent ouvrir un compte bancaire, quoi. Et ben, ce qui est pareil, ça a l'air de c'est une difficulté administrative qui est surmontable, mais ajoutée à, je dirais, à un tas d'autres choses, c'est ça complique tout, quoi, puisque pour à peu près tout, on a besoin d'avoir un compte bancaire sur lequel, comme là par exemple une dame qui est en formation, qui a enfin eu une formation qui est rémunérée, mais c'est prouvé, mais elle n'a pas de compte et elle ne peut pas ouvrir de compte.
Du coup, pas d'accès à l'argent qu'elle a pourtant gagné et tout. C'est assez kafkaesque. un autre lieu en fait souvent ça peut être assez difficile en fait de faire face, enfin de vivre en fait avec en étant séropositive, c'est peut-être la vie professionnelle en fait, le travail justement. Et je sais pas, dans les femmes que vous rencontrez à l'association, est-ce que il y en a qui parlent en fait de leur rapport au travail? Est-ce que elles peuvent en fait en parler déjà dans leur lieu de travail? Est-ce qu'elles doivent le tenir secret, ou comment ça se
En fait, la question c'est qu'il, je pense qu'il y a pas. Pourquoi il y aurait nécessité à finalement en parler, quoi, dans son lieu de travail, parce que finalement que ce soit pour le sida ou n'importe quelle pathologie chronique, pourquoi on aurait à dire à ses collègues tiens, j'ai un cancer. Donc la difficulté elle est plus dans quand on est à devoir gérer la prise des médicaments dans le cadre de son temps de travail, ou sur des réflexions qu'il peut y avoir quand sur un jour on a mauvaise mine, ou il y a des absences répétées, ou alors quand on doit aller négocier un mi-temps thérapeutique avec son employeur, donc il n'y a pas du tout d'obligation à dire le pourquoi du comment, mais il y a une espèce de suspicion qui erre comme ça, donc qui fait une ambiance pas très agréable. Des fois c'est aussi sur des personnes qui sont très bien dans leur boulot, très bien intégrées au sein de leur équipe, c'est d'entendre des petites réflexions du style la collègue avec qui on s'entend très bien de dire je peux te prendre ta bouteille d'eau, de toute façon je peux boire dedans, t'as pas le sida. C'est des petits trucs comme ça.
Ouais, moi je me rappelle, j'ai déjà remis en place des personnes qui me faisaient des blagues comme ça, enfin parce que je trouve que ça véhicule vraiment des fausses idées, quoi, parce que il y a pas 10 000 manières de contamination, quoi,
et sûrement pas par une bouteille d'eau.
Ouais, enfin c'est ça en fait,
on assiste aussi parfois une espèce de décalage entre une surinformation et une désinformation. C'est qu'on va avoir des personnes, la même personne qui va venir nous voir en nous posant des questions sur les dernières molécules sorties sur les traitements, parce qu'elle aura vu une émission à 5.5 qui parle de la molécule truc muche. Donc nous-mêmes on est obligé de dire attendez, on va aller voir dans nos parce qu'on est en incapacité de répondre tellement c'est pointu. Et puis dans la seconde suivante, il pose la question, et au fait, est-ce qu'il existe des produits super puissants pour pouvoir nettoyer le sol au cas où il y a quelqu'un de séropositif qui est signé par terre, et pour être sûr de ne pas être contaminé. Donc complètement aberrant, quoi.
Par rapport à du coup cette discrimination, enfin les difficultés dans le travail, voulez-vous lire un témoignage qui est tiré de Remède de décembre 2004? Et qui est un témoignage donc de Carole. J'avais un emploi précaire à la poste dans un centre de tri. Je n'ai jamais pu le dire. je ne voulais pas perdre mon contrat. C'était assez traumatisant, car non seulement je voulais paraître en bonne santé, mais je devais aussi me soigner. Toutes les 4 heures, je prenais ma prise, obligée de m'enfermer dans les toilettes. Et puis partout, j'ai l'impression qu'on sait que je suis séropositive. J'ai perdu ma poitrine, je souffrais de neuropathie, fourmillement dans les extrémités du corps. L'image de soi est mise à mal. Les gens se cachent aussi, parce qu'ils croient que ça se voit, alors que tout ça, c'est plus dans la tête. Depuis 6 mois, je recherche un emploi. Après plusieurs entretiens, j'ai compris qu'il fallait retirer de mon CV ma reconnaissance de travailleuse handicapée. C'est pas très vendeur. Il faut toujours faire attention à tout et assurer une façade, alors que parfois, on aimerait partager plus.
Ouais, je trouve que ce témoignage, il montre bien ce... Enfin, effectivement, ça se pose pas en termes d'obligation en fait, d'en parler, mais que parfois, c'est, d'avoir l'impression que c'est pas possible d'en parler, ben, ça peut peser assez lourd, quoi.
Ouais, et surtout dans un contexte où, en général, les femmes dans la société ont déjà, sont plus touchées par le chômage, les emplois précaires, les emplois à mi-temps, instables, etc.
Alors, avant de continuer à parler de ce thème, on va écouter un morceau du groupe The Blow, et le morceau s'appelle « What Tom Said About the Girls ».
All day long, you have the day, and when the sun sinks down, it sunk away. And then, what do you have? What do you have in the night? What do you have? What do you have? Well, I got a ride, and it's hot, I drive it. To pay the gas, I got a 9 to 5 it. The engine turns, keeps the heat alive for the ladies. All the girls in pictures, girls in bars, yeah. Everybody knows a girl requires a car. And I drove one out to look up at the stars. And she was like, Tom, do you ever notice the space that's in between the stars? And I was like, you know, well, I've seen a hole and I aim to fill it. If that hole's got a heart, I got the means to fill it. The hole's got a heart, I got the means to fill it. If that hole's got a heart, just keep your girls, keep your girls burning. Just keep your girls, keep your girls burning, please. Keep your girls, keep your girls burning. Cause they're hot circles in the give you some hope, yeah. Keep your girls, keep your girls burning. Just keep your girls, keep your girls burning, please. Keep your girls, keep your girls burning. Cause they're long hair, baby, babies are old, yeah. You know, I see you walking down the street, and driving in my car. You look good to me. Cause you look like a beacon of light, just beaming in the night, and you feel safe. So I'm like, hey baby! Still exist on this planet, plenty of dark places, baby. And who knows what's lurking there? I'm a man among the movements, I fill it in with a pretty face, yeah. Light it up like a billboard on the hillside, with a big girl on the horizon. Just keep your girls, keep your girls burning. Just keep your girls, keep your girls burning, please. Keep your girls, keep your girls burning. Cause the hot circles give me some hope, yeah. Keep your girls, keep your girls burning. Just keep your girls, keep your girls burning, please. Keep your girls, keep your girls burning. Cause they're long hair, baby, babies are up, yeah. Keep your girls, keep your girls burning. Just keep your girls, keep your girls burning, please.
Carole, 38 ans. Hier ou aujourd'hui, apprendre sa séropositivité est un choc. On se sent condamné. Je veux montrer aux personnes nouvellement contaminées que je suis vivante, que je vis avec le VIH depuis 14 ans, qu'il faut croire en soi. Et puis témoigner permet aussi de revendiquer haut et fort ce qui ne va pas. Je déplore qu'actuellement, trop peu de femmes participent au protocole sur de nouveaux traitements, et les laboratoires n'adaptent pas assez les doses, prévues pour des hommes de 75 kilos.
Ben, vous êtes toujours sur Dégenrer aujourd'hui sur femmes et VIH-SIDA. Et donc, le témoignage qu'on vient d'entendre, il introduit le thème en fait de la recherche qui, enfin, où en fait il y a un énorme problème en fait par rapport aux femmes qui sont pas du tout assez prises en compte par les laboratoires en fait qui font des recherches. Par exemple, eh ben, elle, enfin, alors qu'elle représente, enfin, 60% de la, enfin, des, au niveau mondial, en fait, des personnes vivant avec le VIH, dans les essais cliniques, en fait, elle représente seulement 20%. Et donc, en fait, il y a, enfin, aussi, comme c'est dit dans le témoignage, en fait, enfin, les traitements en fait sont testés donc avant tout en fait sur des hommes
c'est les médicaments en général en fait qui sont testés enfin ou sont adaptés pour une moyenne d'un homme de 80 kilos et qui ne prennent pas en compte du coup par exemple que les femmes peuvent avoir un poids différent, qui prennent pas en compte non plus le cycle hormonal etc. Et c'est encore ce truc que les femmes elles sont vues comme spécifiques et les hommes comme général, alors que comme le référent sur lesquels on va faire les tests etc. Et des fois on va parler des spécificités féminines alors qu'elles sont pas plus spécifiques et que les médicaments et traitements devraient prendre les deux autant en compte.
Ouais, aussi dans un article en fait que justement qui essaie de donner des raisons en fait, ce qu'elle soit aussi peu présente en fait dans les essais cliniques, il est par exemple comme raison, il est donné qu'il y a le risque de voir les données faussées par les fluctuations hormonales du cycle ovarien, alors que, enfin c'est une blague, enfin je veux dire les femmes séropositives, elles ont aussi ce cycle là et du coup il faut bien trouver des traitements adaptés en prenant en compte ce cycle, et c'est pas que ce cycle là il fausse les données, c'est vraiment en fait de voir ça comme comme une spécificité culturelle des femmes alors que c'est juste leur corps fonctionne comme ça et elles représentent la moitié de l'humanité. Alors je sais pas, du coup en fait les traitements donnés ont souvent des effets secondaires assez forts et qui pourraient peut-être être amoindris s'il y avait plus de recherches là-dessus.
En fait, il y a quelque chose qui joue aussi par rapport à l'effort que peuvent faire les laboratoires au niveau de la recherche sur les traitements. C'est effectivement si les femmes représentent une part importante au niveau mondial des personnes contaminées, c'est depuis quand même quelques années qu'on voit arriver en Europe, notamment en Europe et en France aussi, de plus en plus de contamination féminine. Donc il y a une question qui peut être aussi pécuniaire derrière, c'est-à-dire les laboratoires font les traitements, enfin malheureusement c'est pas les pays du tiers-monde qui les intéressent en premier chef. Donc du coup ils vont cibler quelle population, plutôt les pays plus nantis qui vont pouvoir payer derrière les traitements, ça ferait un amas financier intéressant. Donc du coup, vu que jusqu'à récemment, entre guillemets, c'était essentiellement les hommes qui étaient concernés, l'intérêt à trouver des solutions et à proposer des produits était plus en direction des hommes. Donc c'est vrai que les femmes ont c'est vrai que ça fait presque que 2 ans qu'on entend vraiment enfin parler de la prise en compte des femmes au niveau des traitements et commencer un peu à chercher des solutions pour éviter justement tous ces désagréments supplémentaires qu'il y a par rapport aux prises de médicaments. Et effectivement au niveau de il n'y a aucunement prise en compte les différences physiologiques des femmes et des hommes à ce niveau là quoi.
Et peut-être on peut juste un peu parler plus concrètement d'exemples d'effets secondaires et ce que ça pourrait représenter pour les femmes?
Au niveau des effets secondaires, les hommes et les femmes séropositifs éprouvent un certain nombre, tels que la nausée, la fièvre, l'anémie, la diarrhée, puis la fatigue. Mais c'est vrai que les femmes les ressentent différemment, et il y en a qui peuvent être plus facilement... je veux dire, qui sont plus particulièrement pour les femmes, comme on peut parler de l'hypodystrophie, au niveau du changement du corps, comme disait Annabelle, la répartition des graisses change complètement, généralement on a perte considérable de graisse au niveau des membres et apparition de la bosse de bison, tout ça, et elle serait aussi plus à risque au niveau des infections opportunistes dans l'appareil génital.
Voilà quoi pour les femmes, si le corps il se transforme autant, cette histoire de répartition des graisses, je pense sur les femmes pèse un assez énorme assez et, bah ouais, justement norme de beauté
plein de dents.
Donc je pense que, enfin j'imagine que ça ne représente pas du tout la même chose en fait pour les femmes de à un moment donné, vu que les femmes souvent on est définies plus par une apparence extérieure aussi, une sorte de devoir d'être belle et tout. J'imagine que ce type d'effet secondaire en fait, que ça peut prendre une place énorme en fait sur comment quel rapport les femmes peuvent avoir à leur propre corps et aussi donc par rapport à la maladie aussi, ce que ça représente en fait dans leur vie.
Et puis c'est oui, l'effet de la représentation de la société par rapport au canon féminin, ce que ça va être quoi. Donc c'est les gravures de mode des magazines et certainement pas une femme avec de la graisse qui se situe n'importe où sur le corps, donc qui retentit effectivement encore plus fort chez les femmes que chez les hommes. Les hommes aussi peuvent avoir de l'hypodystrophie, ça peut être aussi un très fort une perte des graisses au niveau du visage il y a aussi des problèmes comme ça rencontrés par les hommes, mais c'est vrai au niveau des femmes ils se rajoutent à la réalité de cette difficulté, la représentation de ce que ça doit être une femme qui je pense ajoute
une pression
supplémentaire.
Et ce qui est terrible, c'est que pour beaucoup, je pense surtout au niveau de la lipodystrophie, mais on peut parler aussi d'autres choses, c'est rien que, même au niveau de la maladie en général, cette sensation d'avoir perdu sa féminité, et quelque part, si elles ne se définissent que par ça, sont un peu de leur humanité, quoi, d'avoir l'impression d'avoir perdu plus que la santé, quoi.
Ouais, à ce sujet, je voudrais bien lire un témoignage de Catherine, 40 ans. La transformation du corps n'est pas anodine, et elle est très difficile à supporter. D'un seul coup, j'ai pris de la poitrine et plusieurs kilos. Je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans mon corps. Quand j'en parlais à mon médecin, il me disait « Ce n'est pas grave, de quoi vous plaignez-vous? Votre charge virale est indétectable et vos T4 sont assez élevés. » J'ai vu mon corps se masculiniser. Dès le début, cette maladie a chamboulé ma féminité. Avant tout, c'était ma féminité qui était bafouée. Parce que d'un coup, j'ai su que je n'aurais pas d'enfant, que je ne ferais plus jamais l'amour normalement. Mon corps de femme était devenu plus rien. Pour moi, pendant longtemps, le mal était situé au niveau du ventre. Le reste n'était pas contaminé. C'était mon ventre qui était contaminé. J'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser de ça. Je trouve que les médecins prennent tout cela un peu trop à la légère.
Eh ben, un peu pour rebondir sur ces questions de... pression, des normes de beauté donc qui sont beaucoup plus difficiles à vivre pour les femmes. On va passer un morceau des Reines Prochaines, qui est un groupe de lesbiennes suisses. Et le morceau s'appelle I Hate Diets, je hais les régimes.
Yeah, it happened one day and it happened in front of a hairdresser shop.
She was sitting there, alone. She was waiting. Me too. But then, we crossed the eyes, and that's what I told her. Hillbilly leaped for the tail. Hillbilly leaped Käse Platte. Hillbilly leaped Sahne Torte. Hillbilly leaped Schweinebacke. Hillbilly leaped Frido Blume. Hillbilly leaped Sack van Hülse. Hillbilly leaped Gartenzäune. Hillbilly leaped Hirschgeweihe. Little bit light, little bit low, little bit light, little bit low, little bit light, little bit low, little bit light. I hate diets.
I hate diets. I hate diets.
Dégenré, donc sur le 97 FM. Et ben, donc, dans notre émission sur les femmes vis-à-vis du VIH-Sida, on voulait aussi un peu discuter de cette question dont tu as parlé aussi un peu avant, Annabelle, de l'isolement et la difficulté ou du choix d'en parler ou non à ses proches, que ce soit sa famille, ses amis. Et j'imagine que ça doit être un truc qui doit aussi revenir dans les difficultés des femmes, en fait. Comment en parler, comment ça va être pris.
Au début, la période de, ça fait partie de la période difficile quand on apprend sa séropositivité. C'est un des facteurs importants qui rentre en compte au-delà de. Il y a différentes phases, quoi. C'est déjà savoir qu'est-ce que c'est que cette maladie, parce que comme beaucoup de monde, l'idée encore, c'est quand on apprend qu'on est séropositif, c'est que c'est bon, on va mourir dans 2 ans, ou avec des représentations vraiment terribles sur la maladie, et puis voilà, sur une fin proche, plus d'avenir, enfin, côté, voilà. Et ce qui joue aussi beaucoup, oui, voilà, c'est l'entourage. Donc, enfin, on a vu des personnes qui se sont retrouvées d'un coup, voilà, toutes seules. Donc, notamment une dame qui était hébergée chez une amie qui a pris sa séropositivité en allant chez le médecin pour quelque chose de tout à fait banal. Et bon, elle a découvert là, après une prise de sang, qu'elle était séropositive. Enfin, une fois qu'elle l'a dit à son amie, elle a dit « j'ai rien contre toi, mais tu comprends, j'ai des enfants, tout ça ». Donc elle s'est retrouvée à la rue. Donc il y a ce côté qui est présenté de « je t'aime bien quand même, mais de loin ». Quoi. Donc qui arrive assez fréquemment. Donc qui fait que les personnes se retrouvent effectivement isolées avec la maladie par rapport à leur entourage. Et une crainte, ce qui rejoint, je dirais, toute la population, c'est que malheureusement, on n'a toujours pas réussi à faire tomber des représentations, même sur les modes de transmission de la maladie, sur le fait de serrer la main, d'embrasser, de caresser, enfin d'un tas de choses, de tous les gestes de la vie quotidienne, qu'il n'y a aucun risque. Et ça, c'est à la fois on entend, mais c'est bon, le sida, on connaît tout, on nous a assez cassé les oreilles avec, c'est pas la peine de nous en parler. Et en même temps, bon, bah, dans le quotidien, ce qui ressort, c'est que quand même, sait-on jamais, quoi. Bon, on nous dit que si on boit dans le même verre d'eau, il n'y a pas de problème, mais en même temps, la médecine, tout ça, des fois, c'est gourd, on ne sait pas trop.
C'est comme tu disais, Nabel, un moment sur la surinformation qui vient de la désinformation, qu'ils savent qu'il faut une plaie, machin, une porte d'entrée pour le virus, et du coup, ça se transforme en je mange avec la même fourchette que la personne. Oui, ça craint pas s'il n'y a pas de plaie de la bouche. S'il y en a une, ça craint peut-être. Donc, ça se transforme même en doute, quoi. Donc, j'imagine pour quelqu'un qui est, comme tu disais, cette dame qui était chez quelqu'un d'autre, si elle a ses doutes, bon, la réaction, c'est éloigne-toi de nous, quoi.
Ouais, moi, pendant la préparation de cette émission, on a lu vraiment beaucoup de témoignages et. Moi, j'étais frappée par le nombre de témoignages où des personnes ils vont parler à leurs enfants ou à leurs parents ou leurs frères et sœurs, enfin, ou des gens vraiment proches, qu'au bout de 10 ans. Enfin, moi, je me dis, c'est vraiment terrible, quoi, de en fait ne pas se sentir d'en parler pendant aussi longtemps, quoi. Ce qui est toujours pareil, quoi. Il n'y a pas forcément une obligation d'en parler, mais du coup, ça veut dire aussi si on veut pas que les autres sachent, je sais pas, mettre plein de trucs, gérer tout un peu en cachette, quoi, les traitements, les malaises, je pense que on nécessite aussi un soutien, psychologique et affectif, quoi, et donc si dans ces cadres-là de proches on peut pas en parler, et ben c'est vachement dur.
Ça montre aussi, je trouve, ce truc que le sida, par rapport à d'autres maladies, ça reste encore quand même une maladie honteuse ou plus tabou. Et je pense que c'est quand même beaucoup dû à ce fait que, à part la transmission au niveau du sang, que d'autres facteurs de transmission, c'est par les voies sexuelles, et que je pense qu'il y a quand même un espèce de truc qui reste là-dedans, qu'une maladie sexuelle, c'est toujours plus honteux que d'autres sortes de maladies. Enfin, il y a vachement plus un stigmate, en fait, là-dessus.
Puis derrière la question d'annoncer sa séropositivité, ce qui vient derrière, c'est comment tu l'as attrapé, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui est difficile à dépasser, quelque part, quand on est amené à dire sa séropositivité. C'est à la fois se demander si celui qui est en face va pas penser que c'est bon, maintenant, quand tu veux lui dire bonjour, il va aller se laver les mains 4 fois derrière. Il y a ça, et puis il y a le fait de la question latente, même si elle n'est pas posée en face, de dire mais comment tu l'as eu, avec ce côté, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, de l'effet mauvaise vie, vie dissolue, qui est lié au sida. Et puis dans des après, ce qui arrive communément, dans les couples hétérosexuels, c'est que souvent dans le couple, il arrive souvent qu'il y en ait un qui trompe l'autre. Donc la séropositivité au milieu de tout ça, à un moment donné, déjà quand il y a ce sujet de tromperie qui est abordé dans les couples, c'est déjà pas joyeux à vivre. Alors avec le sida en plus, c'est une hécatombe.
Alors moi, par rapport à ce stigmate en fait qui pèse sur les séropositifs et séropositives encore plus, je voulais lire un témoignage. C'est encore Catherine, 40 ans. Mais pourquoi en est-on non. Je recommence. Mais pourquoi en est-on encore à se cacher après 20 ans de maladie? Quand je l'ai annoncé à mes parents, mon père a dit « Je ne veux pas que les autres le sachent ». Et j'ai accepté de me taire. Ma réaction, ça a été « Je ne vais pas leur faire ça, c'est leur vie. S'ils ne sont pas capables d'assumer ça devant la famille et leurs amis, je dois le respecter. » Maintenant, je me dis que j'ai une responsabilité. C'est pour cela que je veux me montrer. Je veux le dire, je veux en parler, parce qu'il faut que l'on montre qu'on est des femmes comme les autres, et que l'on arrête de nous prendre pour des salopes.
Sinon, une autre difficulté, je pense que c'est évidemment par rapport aux relations intimes, sexuelles, et de comment le gérer, sachant que déjà pour les femmes, en général, c'est pas évident à gérer ce truc de protection, etc. Et pour des femmes séropositives, il se rajoute encore un truc à ce niveau-là.
Puis même sans le, enfin, en ne pense, je vais y arriver, en ne pensant pas seulement à la protection et la négociation du préservatif, il y a aussi, je pense, quand on s'engage dans une relation sexuelle, c'est qu'il y a eu séduction avant. Et donc la représentation qu'on a de soi-même et de sa féminité quand on est une femme, on doit être suffisamment bien avec, enfin j'espère, pour pouvoir ensuite se lancer. Et ça déjà au niveau des femmes séropositives doivent avoir peu confiance en leur représentation. Et ensuite il faut négocier le préservatif ou le fémidon ou le préservatif féminin. Et tout ça c'est tous des obstacles qui vont conduire beaucoup de femmes séropositives, je pense, à renoncer d'une certaine manière à leur vie sexuelle.
Il y a quelques jours, j'ai rencontré un homme. Nous sommes allés prendre une bière pour parler. Il m'a raconté qu'il connaissait une femme dont le mari est séropositif. Puis, il a ajouté « Si j'étais elle, je le quitterais ». Là, j'ai pensé que je ne pourrais pas lui dire que je suis séropositive. Par la suite, lorsque nous sommes devenus plus intimes, je lui ai demandé pourquoi il ne voulait pas utiliser de préservatif, s'il avait si peur du sida. Il a répliqué que ce n'était pas pour lui, ces trucs-là. « Alors tu n'as pas peur, lui ai-je répondu, sinon tu les utiliserais. Parce que moi, par exemple, qu'est-ce que tu sais à mon sujet? Et qu'est-ce que je sais de toi ?» Après un silence, je lui ai dit que si nous devions rester ensemble, il fallait absolument utiliser des préservatifs. Il a acquiescé. « Ok, il m'a dit, tu es tellement formidable que j'achèterai une boîte. » Finalement, il ne m'a pas rappelé. Tant pis, j'ai fait ce que je voulais faire. Je ne peux pas toujours dire la vérité parce que les gens fuient, mais je cherche toujours à ne pas les exposer. C'est Laura.
Un autre témoignage de Carole. « Je vois un homme depuis un an qui ignore tout de ma séropositivité. Je ne veux pas lui dire car il va fuir. » Je lui ai tendu des perches en lui disant que j'avais une maladie chronique, mais cela ne l'intéresse pas. Sexuellement, j'ai souvent peur que le préservatif craque alors que lui voudrait l'enlever. Je lui dis que je fais partie des personnes qui ne veulent pas connaître leur sérologie et donc que je me protège toujours. Je sais que je ne pourrais pas continuer tout le temps comme ça, ce n'est pas une vie. Mais je reste choquée par un ancien petit ami qui, lorsque je lui ai tout dit, n'arrivait plus à bander. « Je ne veux pas être en érection quand la viande est avariée », m'a-t-il déclaré. J'avais la rage. Après, on se met quelques barrières de protection. Le danger est de trop en mettre et de s'isoler.
Et encore un témoignage de Catherine, 40 ans. Après la mort de Patrick, mon compagnon, j'ai été confrontée à ça, dire ma séropositivité à un autre homme. Et là, je me suis rendu compte que les hommes de ma génération étaient quand même assez nombreux à ne pas savoir utiliser une capote. Ça commençait vraiment à me faire flipper. Quand je leur disais que j'étais séropositive, ils jouaient un peu les héros, genre « j'ai couché avec une femme séropo, je suis merveilleux ». Mais le lendemain, je ne les voyais plus, c'était terminé. Je dis systématiquement que je suis séropo. Comme ça, je suis clair. Le tout, c'est de trouver le bon moment pour éviter de finir la nuit toute seule.
Eh ben, peut-être avant de reprendre sur la fin de notre émission, qui sera un peu sur la question de la criminalisation des personnes séropositives, on va faire une pause musicale avec un morceau de God Is My Copilot qui s'appelle « I Don't Like Secrets ».
Ben vous êtes sur Dégenré avec le thème femmes et VIH et c'est la dernière partie de notre émission et on voulait parler en fait de, enfin comme Amélia l'avait annoncé, de la pénalisation de la contamination qui sont un des enjeux en ce moment en France dans la lutte contre le sida, parce que il y a eu en été dernier un jugement, en fait, un homme qui a été condamné à 6 mois de prison, 6 ans de prison, pour avoir contaminé deux de ses partenaires en sachant qu'il était séropositif. Et en fait, ce jugement donne donc une nouvelle jurisprudence où, pour l'instant, en France, la contamination était... avec le VIH n'était pas considéré comme un crime. Et donc, en fait, il y a tout un débat assez animé sur ce sujet qui est clairement assez délicat. Mais donc, cette idée, en fait, de pénaliser la contamination... ça renforce beaucoup en fait la stigmatisation déjà assez forte des personnes séropositives. Ça amène aussi en fait l'idée que dans la contamination, enfin dans des rapports sexuels, en fait la responsabilité, elle serait uniquement du côté, en fait elle serait portée uniquement par les personnes séropositives, et que en gros c'est ces personnes-là qui représentent le danger et que limite il faut enfermer, alors que quand on s'intéresse un peu à ce qui se passe en prison, la prison, c'est déjà, en fait, en étant séropositif en prison, l'accès aux soins est très difficile. Et en plus, la prison n'est pas du tout un lieu où n'existerait pas la contamination, vu que l'accès aux préservatifs peut aussi être assez difficile. cette thématique, elle est, enfin, c'est donc... assez délicat, parce que de l'autre côté il y a quand même aussi une une colère compréhensible en fait de chez des personnes qui ont été contaminées, d'autant plus en fait si comme c'était le cas en fait dans le jugement qui donc avait eu lieu à Strasbourg, apparemment étaient produits des fausses attestations qui attestaient qu'il était séronégatif. Et donc c'est vraiment problématique. Mais je sais pas, Audrey, toi tu avais travaillé, enfin tu t'étais intéressée un peu à, dans d'autres pays en Europe en fait, il y a donc des législations différentes en fait. Quand on s'intéresse un peu à l'Europe, il y a peu de pays où il n'y a pas une criminalisation comme ça. Et donc un des pays où tu t'es intéressée, c'était la Suède. Peut-être tu peux raconter un peu en fait comment ça se passe en Suède.
Bah, je vais pas me présenter comme une spécialiste du droit suédois. voilà. Quoi. Enfin, toujours est-il que il semblerait que le droit suédois à ce niveau-là sur la pénalisation de la contamination VIH soit une des plus dures, il est dit, au monde, dans le sens où il y a une sorte de devoir de déclaration de sa séropositivité. Avant les rapports, et qu'il faut que ce soit un rapport protégé. Bon, après, il y a toutes sortes de dérives qui sont faites à ce niveau-là, c'est-à-dire que les peines peuvent être plus ou moins encourues, peuvent être plus ou moins lourdes, et le simple fait de faire une annonce avant les rapports a entraîné des dérives au niveau de chantage et tout ça, de condamnation qui n'était pas du tout justifiée. Et je sais pas, je pense qu'il y a un rapport quand même, mais la Suède a, au sujet de ces derniers chiffres, remarqué une baisse du taux de dépistage du VIH. Donc je pense qu'il y a quelque chose derrière, quoi.
Ouais, vu que la pénalisation, elle est accompagnée en fait, enfin, de l'idée de si la personne, elle sait qu'elle est séropositive, et ben c'est à partir de ce moment-là qu'elle peut être coupable. Et donc en fait, enfin, il y a beaucoup d'associations en fait qui parlent de ce risque-là, qu'une législation comme ça en fait, elle peut avoir pour comme effet en fait que les personnes vont encore moins aller se dépister, parce que vaut mieux pas savoir, quoi, pour pas être coupable. Il y a aussi, je sais pas, moi j'avais lu que par exemple en Norvège ils font pas de différence en fait, enfin où il y a aussi, où c'est aussi criminalisé, ils font pas de différence entre en fait des cas où il y a eu une contamination effective ou alors les personnes ont vécu une situation à risque mais finalement il n'y a pas eu contamination. Et ça aussi c'est assez hallucinant que dans des actes sexuels qui se font à deux, qu'une personne puisse porter être l'unique responsable en fait de ça. Après,
il peut même se retrouver l'unique responsable d'une prise de risque d'une relation. En Suède, c'est ce qui se passe aussi.
Bah, là où je pense que cette question de la criminalisation, ça nous intéressait aussi d'en parler en tant que féministe, c'est que pour l'instant, les premières plaintes, elles viennent aussi de femmes qui parlent de la situation où on s'est passé leur contamination. Une situation où elles avaient quand même peu de marge de manœuvre, où elles ont l'impression d'avoir été abusées, d'avoir été vraiment victimes de quelque chose, et qui considèrent que leur statut social les a davantage exposées au risque. Et pour moi, le problème, j'ai l'impression, c'est vraiment que je pense que la criminalisation, c'est pas du tout une bonne réponse. Enfin, au sens que plutôt que de faire vraiment de la prévention, de remettre en cause c'est quoi les rapports de pouvoir homme-femme, c'est quoi les possibilités des femmes de négocier des relations sexuelles protégées, par exemple d'en refuser dans le cadre du couple, qu'on soit marié ou non, de pouvoir choisir vraiment librement leur sexualité, de qu'est-ce qu'elles ont envie comme pratique sexuelle, de quand elles en ont envie, etc. Enfin, pour moi, ce serait plutôt là-dessus qu'il faudrait travailler, plutôt que d'enfermer des gens Et où, du coup, ça fait encore plus une espèce de division avec des femmes soit victimes, soit coupables, avec des personnes séropositives soit plus victimes et d'autres plus coupables, et que je trouve rend le débat complètement stérile, en fait. C'est vraiment juste...
Qu'on risque de se retrouver avec des victimes qui deviennent coupables. Jusqu'après, comment... Si on va dans ce type d'escalade, comment, par exemple, quelqu'un qui va être accusé d'avoir contaminé quelqu'un va pouvoir prouver qu'il a bien utilisé un préservatif pendant la relation sexuelle ? Enfin, c'est plein de questions comme ça qu'il y a derrière. Et effectivement, il faut travailler sur plus par rapport à la situation des femmes, de leur capacité justement à négocier les choses. Et puis aussi surtout sur... la possibilité pour toute personne séropositive de pas pouvoir parler plus facilement de sa séropositivité.
C'est bientôt la fin de notre émission, et pour finir aussi sur le thème de la pénalisation de la contamination, je voulais lire la fin en fait d'un article qui était sorti par la commission femmes de ACT UP par rapport à justement cette thématique. Une fois encore, le discours d'empowerment des femmes prend tout son sens. Refuser d'être des victimes, c'est redonner toute son importance à une sensibilisation à l'épidémie. C'est permettre une prise en charge de la prévention par les femmes grâce à des outils de prévention spécifiques. C'est inciter à des dépistages réguliers et pas seulement lors du premier examen prénatal. C'est lutter au quotidien pour que cessent les rapports de domination dans les couples. Faire d'un ou d'une séropositive un criminel potentiel peut-il améliorer toutes ces insuffisances de nos politiques de santé publique ? Nous cherchons à donner à la société d'autres modèles de femmes séropositives que ceux de pauvres filles ou de salopes, ceux de femmes engagées et responsables, de femmes vivantes et belles.
Eh ben, en lien avec ces histoires de criminalisation et aussi de réponses gouvernementales qui vont juste dans le répressif et de mettre de plus en plus de personnes en prison. On voulait rappeler que le 18 mars, c'était les 2 ans de la loi de sécurité intérieure, et qu'un aspect de cette loi, ça a été la condamnation pour racolage passif des personnes prostituées. Et que là encore, par exemple, le gouvernement s'est servi de... une soi-disant protection de femmes victimes pour au final faire une loi répressive qui va concrètement permettre le harcèlement des prostituées, le fait qu'elles se retrouvent en prison, l'expulsion des étrangères, etc. Et voilà, là on n'a pas beaucoup plus le temps d'en parler parce que notre émission arrive à sa fin, mais si vous voulez plus d'infos par rapport à ça, c'est possible d'aller sur le site de Kabiria, où il y a aussi une pétition qui tourne, et c'est possible de faire aussi des actions pour réclamer la suppression du coup de cette loi. Et sinon, on voulait vous rappeler que demain a lieu le procès de Christine, qui est donc accusée d'avoir fait passer un portable en prison à son compagnon incarcéré. Et donc le procès aura lieu au tribunal de Grenoble, donc au palais de justice. Le rendez-vous à 14h. Et donc c'est vraiment important de venir nombreuses et nombreux la soutenir. Voilà.
Et si vous voulez avoir plus d'informations sur l'histoire, sur ce procès, vous pouvez en trouver sur internet, sur Indymedia Grenoble. C'est grenoble.indymedia.org. Et si vous voulez nous contacter, comme toujours, vous pouvez le faire aussi par mail sur degenre@boom.org. Et peut-être, Audrey et Annabelle, vous voulez redonner les coordonnées de aide
pour nous. On est au 8 rue Sergent Bobillot à Grenoble, et on peut nous contacter au 04 76 47 20 37.
Voilà, donc on va vous laisser avec un morceau de Lesbian en Ecstasy. Un groupe de lesbiennes qui passera à Lyon d'ailleurs mercredi prochain, si ça vous intéresse. Et le morceau s'appelle Révolte. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.